foko de.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Affrontement de Tinzawaten au Mali, le groupe paramilitaire russe confirme de lourdes pertes, dont un commandant. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma est exclu de l'ANC. Le Liban est en alerte car Israël a promis une réponse sévère après l'attaque à la roquette qui a tué 12 enfants. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden dévoile ses projets de réforme de la Cour suprême qui n'ont aucune chance de passer au Congrès. Également, dans un peu plus de 10 minutes, le journal des Jeux Olympiques. Mais d'abord, le journal. Une chaîne Telegram associée au groupe paramilitaire russe Wagner a diffusé des informations sur les combats à Tinzawaten dans le nord du Mali, confirmant des pertes dans les rangs des Russes et la mort d'un commandant, Nathalie Barge.
Une chaîne Telegram a publié une déclaration attribuée au groupe Wagner, indiquant que du 22 au 27 juillet, les FAMA et le 13e groupe d'assaut de Wagner ont mené de violents combats avec des militants de la coordination des mouvements de la Zawad et d'un groupe affilié à Al-Qaïda. Les combattants de Wagner étaient commandés par Sergueï Chevtchenka. Le premier jour, le groupe Wagner a éliminé une grande partie des islamistes et entraîné la fuite des autres. Mais une tempête de sable a permis aux radicaux de se regrouper et d'augmenter leurs effectifs jusqu'à 1000 personnes, poursuit la déclaration. Ils ont augmenté les attaques massives en utilisant des armes lourdes, des drones et des voitures piégées, ce qui a entraîné des pertes au sein de Wagner et des soldats maliens, précise la déclaration. Sergueï Chevtchenka est mort au combat, conclut le message. Hier, l'alliance CSP-DPA de groupes rebelles Touareg a revendiqué une victoire contre l'armée malienne et ses alliés russes. Ils ont diffusé des vidéos de nombreux cadavres et de véhicules détruits, dont un hélicoptère.
6 tirailleurs africains, 4 sénégalais, un ivoirien et un de haute volta, devenu le Burkina Faso, viennent d'être reconnus morts pour la France à titre posthume, alors qu'ils avaient été exécutés avec des dizaines d'autres sur ordre de l'armée française en 1944. Ce geste mémoriel inédit a été fait dans le cadre des commémorations des 80 ans de la libération de la France, un dossier douloureux entre la France et ses anciennes colonies. Le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a réagi, affirmant que ce n'était plus à la France de faire ou de compter seule cette histoire tragique. Rendez-vous en seconde partie de ce journal pour mieux comprendre l'impact de cette décision avec Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré son patrimoine au Conseil constitutionnel au nom de la transparence à laquelle appelle son gouvernement, selon le journal officiel rendu public aujourd'hui. Deux prédécesseurs de M. Faye, Abdoulaye Wad et Macky Sall, avaient également rempli une déclaration de patrimoine après leur entrée en fonction, une obligation légale inscrite dans la Constitution depuis 2001. Plusieurs manifestations sont prévues à partir de jeudi au Nigeria pour protester contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie. Rosine Munezero.
Ces derniers jours, les Nigérians, dont beaucoup de jeunes, ont lancé des appels sur les réseaux sociaux, notamment à manifester contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie. Les autorités ont multiplié les avertissements appelant les Nigérians à ne pas sortir dans les rues. Si les citoyens ont le droit de manifester pacifiquement, ils n'ont pas le droit de se mobiliser pour semer l'anarchie et propager la terreur, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Edward Buba. Atiku Abubakar, le chef du principal parti d'opposition, a insisté sur le fait que le gouvernement doit assurer la sécurité des manifestations pacifiques. Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont appelé dans des communiqués leurs ressortissants à la vigilance à l'approche de ces manifestations prévues à partir de jeudi.
en République démocratique du Congo. Dans le procès de la rébellion du M23, la peine de mort a été requise ce lundi contre 25 des 26 accusés, dont 21 en fuite, jugés donc par une cour militaire à Kinshasa. 20 ans de prison ont été requis par le ministère public contre le 26e prévenu. Les plaidoiries de la défense sont prévues demain après-midi. En Afrique du Sud, le Congrès national africain a exclu ce lundi l'ex-président Jacob Zuma à la suite d'une procédure disciplinaire. L'ANC a déclaré que M. Zuma avait activement porté atteinte à l'intégrité du parti et a fait campagne pour le déloger du pouvoir. L'ANC a perdu sa majorité absolue pour la première fois de son histoire aux dernières législatives. Toujours en Afrique du Sud, de nouveaux secours ont été mobilisés pour contenir la marée noire provenant du navire Ultra Galaxy qui s'est échoué sur la côte ouest et qui a commencé à se disloquer en raison de houles violentes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La communauté internationale multiplie les efforts pour contenir une contagion de la guerre au Liban après une frappe meurtrière sur le plateau syrien du Golan annexé. Une frappe imputée par Israël au Hezbollah libanais. Alexandrine Holognan.
Plusieurs compagnies aériennes, dont Air France et Lufthansa, ont annoncé suspendre leur vol vers Beyrouth suite à cette attaque qui a fait 12 morts. Israël et les États-Unis ont accusé le Hezbollah d'être l'auteur de ce tir. Le mouvement islamiste libanais a nié. Le Hezbollah paiera le prix fort, a averti dimanche Benjamin Netanyahou. Plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, tentent de contenir les risques d'escalade, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie libanaise, Abdallah Bouhabib. Le premier ministre libanais Najib Mikati a indiqué que les contacts se poursuivaient avec plusieurs parties internationales, européennes et arabes, pour protéger le Liban. Les États-Unis travaillent à une solution diplomatique le long de la frontière entre Israël et le Liban, a indiqué la Maison-Blanche dimanche. La France s'est dite pleinement engagée à tout faire pour éviter une nouvelle escalade. L'Iran avait mis en garde Israël dimanche contre les risques d'une aggravation de la guerre en cas d'attaque de représailles au Liban.
La Maison-Blanche s'est dite confiante dans la possibilité d'éviter une guerre plus large entre Israël et le Hezbollah après ce fort regain de tensions dans la région. Personne ne veut d'une guerre plus large et je suis convaincue que nous pourrons éviter une telle issue, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Ici, aux États-Unis, le président Joe Biden a proposé aujourd'hui une série de réformes de la Cour suprême, notamment sur la limitation du nombre de mandats des 9 juges et un code de conduite contraignant. Mais ces mesures ont peu de chances d'être adoptées par le Congrès. Nous faisons le point avec Jean-Roger Bion.
Dans une tribune parue ce lundi dans le Washington Post, Joe Biden entend demander au Congrès d'adopter une limite des 18 ans pour le mandat des juges de la Cour suprême qui sont nommés à vie. Il souhaite aussi faire adopter des règles contraignantes obligeant les juges de la Cour suprême à divulguer les cadeaux reçus, à s'abstenir de toute activité politique publique et à se récuser des affaires dans lesquelles eux-mêmes ou leurs conjoints ont des conflits d'intérêts financiers ou autres. Il va présenter ses propositions qui incluent aussi un amendement constitutionnel visant à supprimer l'immunité présidentielle lors d'un discours à Austin, au Texas. Ces mesures ont peu de chances d'être adoptées par le Congrès. Les républicains disposent d'une courte majorité à la Chambre des représentants, comme les démocrates au Sénat. L'amendement constitutionnel voulu par Joe Biden, remettant en cause l'immunité présidentielle en cas d'inculpation, de procès, de condamnation ou de peine au niveau fédéral, sera encore plus difficile à faire passer, puisqu'il devra obtenir le soutien d'au moins 2/3 des élus des 2 chambres du Congrès.
Le FBI, la police fédérale américaine, va interroger l'ancien président Donald Trump comme victime après sa tentative d'assassinat. Le candidat républicain à la présidentielle de novembre prochain a été visé par des tirs le 13 juillet au début d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. Le candidat a été blessé à l'oreille. 9 pays d'Amérique latine ont appelé aujourd'hui un réexamen complet des résultats des élections au Venezuela après la victoire contestée de Nicolas Maduro hier dimanche. Les États-Unis se sont dit très dubitatifs des résultats. L'Europe et le secrétaire général de l'ONU ont appelé à une transparence totale. En revanche, Nicolas Maduro a reçu les félicitations de ses alliés habituels Cuba, Nicaragua, Bolivie et Honduras. Voilà pour le journal. Vous écoutez les mains sur le VOA Afrique et voafrique.com. Et tout de suite, le journal des Jeux Olympiques avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Claire. Depuis le début des JO 2024 de Paris, 30 pays ont remporté au moins une médaille. En tout, 78 médailles ont été décernées, dont 30 en or. L'Afrique, représentée par la Tunisie, l'Égypte et l'Afrique du Sud, n'a pour l'instant remporté que 4 médailles de bronze. La Chine mène avec 5 médailles d'or sur un total de 9 médailles enregistrées. Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie suivent avec 4 médailles d'or chacun. Les États-Unis ont remporté 12 médailles, dont 3 d'or et 6 d'argent. La France, pays hôte, a gagné 3 médailles d'or, 4 d'argent et 2 de bronze. La Grande-Bretagne, l'Italie, le Kazakhstan, la Belgique, l'Allemagne, Hong Kong et l'Ouzbékistan ont chacun décroché une médaille d'or. Alors, pour comprendre les performances des athlètes africains, écoutez l'analyse de Tarsis Harelimana, journaliste olympique indépendant.
Oui, je pense que c'est vraiment une bonne progression déjà au début quand on voit qu'on gagne aussi des médailles en escrime comme Farah Fergani en sabre, donc le Tunisien, et puis en plus l'Égyptien aussi qui gagne en épée individuelle. C'est une progression, l'Afrique du Sud en rugby à 7 qui devait aller plus loin. Et puis on voit aussi des grandes équipes comme évidemment cette équipe du Sud-Soudan qui bat Porto Rico. Sans oublier aussi, là on ne le dit pas, en ce qui concerne le handball féminin, l'Angola qui a battu quand même l'Espagne. On voit qu'au niveau des équipes, au niveau même du sport d'équipe, au niveau des sports individuels, même si il y a d'autres événements qu'on attend, l'Afrique du Sud, plutôt l'Afrique, est en train de marquer son pas. Donc, elle est en train de progresser dans d'autres domaines, dans d'autres sports qui étaient des sports plus compliqués pour l'Afrique.
Et les épreuves continuent. Certaines ne sont à ne pas manquer, comme le souligne le journaliste olympique indépendant Tarsis Harelimana.
D'abord, on attend que le Tunisien Ousmane Melouli sur 400 mètres en ce qui concerne la natation gagne, remporte son, disons, renforce encore sa place en remportant le titre olympique. Mais évidemment, avec le 1er août, on va aller jusqu'au 9 août, tout ça, ça sera vraiment l'ambiance marquée par l'athlétisme, par le Kenya, par l'Éthiopie, par certains pays aussi en ce qui concerne l'athlétisme. Je pense que là, il n'y aura pas de changement. Le Kenya aura beaucoup de médailles, ensuite probablement suivi par l'Éthiopie. Sans oublier qu'il y a d'autres pays aussi qui peuvent s'interposer. Encore une fois, on peut parler de l'Algérie, on peut parler de Burkina Faso. Sans oublier qu'au niveau du sprint, il y a le Botswana qui peut monter aussi, qui peut marquer des points par rapport à ce qui s'est passé au Jeux de Tokyo.
Tarsis Harelimana, journaliste olympique indépendant basé à Ottawa au Canada. Les points forts de ce mardi au JO de Paris, c'est aussi les stars internationales qui se pressent pour voir l'américaine Simone Biles. Le public l'acclame, elle brille de mille feux. Elle a l'occasion de remporter sa première médaille de ces Jeux dans l'épreuve de gymnastique par équipe sur 5 possibles. En l'absence des Russes, les Américaines ont l'ambition de monter sur la plus haute marche du podium. Un titre serait le 5e pour Biles, un retour éclatant aux Jeux 3 ans après son effondrement mental à Tokyo. En revanche, le Français Léon Marchand devrait plonger 4 fois dans le bassin olympique. Impressionnant, champion olympique du 400 mètres 4 nages avec le deuxième chrono de l'histoire, tout près de son record du monde. 4 minutes 2 secondes 95. Léon Marchand poursuit sa quête avec les séries et sans doute les demi du 200 mètres brasse et 200 mètres papillon, discipline dont il est le champion du monde en titre. À suivre avec attention les séries de l'épreuve reine, le 100 mètres.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Moragibour toujours avec vous. Place au dossier du jour. 6 tirailleurs africains exécutés avec des dizaines d'autres en 1944 à Tiaroy au Sénégal viennent d'être reconnus morts pour la France à titre posthume. Le 1er décembre 1944, l'armée française avait tiré sur des tirailleurs rapatriés qui réclamaient leurs arriérés de soldes au camp militaire de Tiaroy, non loin de Dakar. Au moins 35 tirailleurs avaient trouvé la mort. Que représente cette mention « mort pour la France » et quel est son impact dans ce dossier douloureux entre la France et ses anciennes colonies ? Alexandrine Holognon a joint le professeur d'histoire au Manhattanville College de New York, Mohamed Mbotch.
Ça veut dire qu'ils sont reconnus légalement comme ayant donné leur vie à la France et donc ils vont avoir droit à une pension, ils vont avoir droit à ce qu'on peut appeler des droits militaires. Donc, il y a des incidences pécuniaires, bien entendu, en ce qui concerne la pension, etc. Mais il y a aussi, surtout, ce côté juridique et moral qui fait que ce ne sont pas des gens qui sont des criminels, des mutins qui ont été exécutés, mais plutôt des soldats qui sont morts comme s'ils étaient morts les armes à la main dans le front contre les Allemands ou un autre ennemi.
Pour revenir un peu sur le contexte historique, ils étaient au moins 35 tirailleurs à avoir trouvé la mort dans ces événements de Tiaroy. On se demande si cette reconnaissance « mort pour la France » va changer la perception historique de cet événement.
Non. Tout d'abord, ces 35 morts sont même un peu dépassés par des chiffres officiels français qui montent jusqu'à 45. Et beaucoup d'historiens estiment que, vu l'ampleur et la manière dont cet incident s'est déroulé, on doit parler plutôt de centaines de morts probablement. Ça veut dire que des centaines de personnes en perspective, ou peut-être même des dizaines, même si on accepte le chiffre de 30 ou de 40, sont toujours considérés comme des mutins, c'est-à-dire des gens qui ont levé des armes contre l'armée française, contre leur propre armée. Et de ce point de vue-là, beaucoup de gens estiment que c'est inacceptable de faire ce tri.
Pouvez-vous nous aider à comprendre pourquoi c'est maintenant que la France reconnaît ces tirailleurs et pourquoi 6 personnes sur les plus de 35 qui ont été tuées?
D'une manière générale, je crois que Macron essaie de soit de freiner ce qu'on peut appeler une pente anti-africaine, anti-noire en France, en rappelant aux Français le rôle joué par les Noirs et les etc. et les Africains dans le destin de la France, en particulier dans les années 40. D'autre part, beaucoup de gens pensent qu'il le fait aussi pour redorer l'image de la France en Afrique. Et en ce qui concerne le front électoral en France, on sait très bien que c'est aussi une sorte de clin d'œil à la gauche française, de clin d'œil à beaucoup de gens en France qui estiment que le traitement des Noirs, d'une manière générale, et pas seulement d'ailleurs les immigrés, mais au-delà des immigrés, les tirailleurs qui ont donné leur sang et leur vie en France ont été laissés pour compte et n'ont jamais été intégrés vraiment dans la mémoire historique française qui glorifie la libération contre les Allemands, qui glorifie le combat pour la liberté, qui glorifie le combat pour la démocratie, mais laisse de côté ces gens qui sont morts pour ces mêmes idéaux et dans les mêmes conditions que leurs camarades français qui, eux, sont vénérés, sont fêtés, sont adulés. Et donc, il y a bien cette volonté en France.
C'était Mohamed Mbodge, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le Bénin a abrité une table ronde sur le financement de l'action climatique à Cotonou pour présenter ses priorités et discuter des options de financement des projets. Des climatologues, agroécologues et autres experts discutent de possibles solutions urgentes à la crise alimentaire qui se profile à l'horizon si rien n'est fait pour contrer les effets du changement climatique sur l'agriculture. Précision avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Le Bénin subit les impacts du changement climatique sur le secteur de l'agriculture. Entre perturbation du calendrier agricole et les baisses de rendement, les agriculteurs ne savent plus à quel sein se vouer. Philemon Rumpati et Nadine Assouan sont agroécologues.
Nous constatons une différence nette au niveau des précipitations qu'au niveau des températures.
Nous assistons au bouleversement du cycle saisonnier, à la baisse de la productivité.
Pour sauver l'environnement, il faut qu'on mette au moins 0,4% de carbone dans le sol chaque année.
Base de l'économie béninoise, l'agriculture fait les frais du changement climatique dont les effets menacent chaque jour les différents secteurs. Bertin Kanakin est expert en agriculture.
Avant, les pluies s'installaient à un moment donné, à partir du mois de mars déjà, les pluies commencent à s'installer. Actuellement, il faut aller à avril-mai avant d'avoir les premières pluies qui permettent de faire l'agriculture. Mais si ça continue de cette manière-là, qu'est-ce que ça va devenir? Cela n'est pas sans conséquence. Les paysans ne se retrouvent pas encore dans ce schéma, même beaucoup d'intellectuels.
Le Bénin doit mobiliser plus de 4,240 milliards de dollars pour la mise en œuvre de son plan d'adaptation au changement climatique. À la table ronde de Cotonou, la directrice des opérations de la Banque mondiale est optimiste.
Le Bénin a été le premier pays à émettre un Sustainability Development Bond. Une des options qui m'a séduite, c'est la proposition du Bénin, très innovatrice, me semble-t-il, sur la monétisation du carbone pour le développement.
Tobias Adrian, conseil financier et directeur du département des marchés monétaires et de capitaux du Fonds monétaire international.
L'accord conclu par le Bénin avec le Fonds monétaire international en décembre de l'année dernière pour une facilité de résilience et de durabilité.
Romuald Ouadani, ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, a souligné l'urgence de la situation.
Nous allons sortir d'ici, ne serait-ce qu'avec une seule initiative sur laquelle on s'accorde tous à soutenir le Bénin pour la COP29, pour qu'à cette occasion-là, on dise, Banque mondiale, FMI, les différents partenaires au développement, ont accompagné le Bénin pour exécuter, transformer une idée en réalité.
En attendant que le Bénin ne réussisse le pari de la mobilisation des ressources financières, Arcade Signon, activiste pour une énergie propre et verte.
Le paysan qui se trouve loin des villes, qu'on le rende indépendant de l'utilisation de l'énergie pour ses besoins. Et dans ces conditions, il n'ira pas abattre plusieurs arbres pour faire un seul feu.
Le Bénin compte trouver un plan concret avant la réunion de la COP29 en novembre prochain. Plusieurs projets d'agriculture régénérative et d'énergie renouvelable attendent d'être financés en vue de leur mise à l'échelle nationale. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les attaques, arrestations et restrictions imposées aux journalistes, notamment sur la couverture des manifestations de jeunes, suscitent l'inquiétude des médias kényans. Les journalistes protestent contre ces mesures. Reportage de Juma Majanga à Nairobi. Récit Gabi Dorsil.
Des journalistes qui défilent dans la capitale kényane, Nairobi. C'est l'une des nombreuses manifestations organisées dans tout le pays, dénonçant les attaques de la police contre les médias qui couvrent les manifestations menées par les jeunes. Stephen Leto est un journaliste participant à la manifestation.
Ce que nous essayons de dire, c'est que nous sommes également opposés à la censure des médias. Nous sommes opposés à ce que le gouvernement nous dicte, ce qu'il veut que nous diffusions. Mais nous voulons avoir le droit et l'opportunité de nous exprimer librement et de nous assurer que nous transmettions les informations au public, car nous sommes le quatrième pouvoir.
La liberté de la presse est garantie par la Constitution du Kenya, mais l'Association des éditeurs de la presse affirme que le gouvernement tente d'interférer avec ce droit. La réaction à la couverture médiatique des récentes manifestations souligne ce défi, déclare sa présidente Zubeida Kananou. Certains médias sont la cible de campagnes de diffamation et de menaces de retrait de licence, dit-elle. Kananou, elle aussi, a reçu des appels et des messages menaçants.
Ils ont utilisé tous les moyens pour susciter la peur parmi les journalistes, dont moi-même, pour avoir dénoncé le gouvernement.
L'organisation Media Council of Kenya a recensé plus de 20 violations de la liberté de la presse commises par la police et les manifestants pendant le mois de juin. Ces incidents incluent des arrestations arbitraires, des agressions et des menaces. La journaliste de K24, Catherine Wanjiri, a été blessée à la jambe par des balles en caoutchouc alors qu'elle était clairement identifiable comme étant de la presse. Des journalistes, dont Elisabeth Motoko de TV47, affirment avoir été bannis du Parlement après avoir couvert la prise d'assaut du bâtiment.
Notre plus grande erreur ce jour-là a été de montrer aux Kenyans exactement ce qui s'était passé. Certains d'entre nous ont été qualifiés de criminels et on nous a dit qu'une enquête était en cours. Et notre question était, quelle enquête ?
Le président de l'Assemblée nationale a nié l'exclusion des médias du Parlement. Un porte-parole de la police a refusé de répondre aux sollicitations de la Voix de l'Amérique. Les appels et messages adressés au porte-parole du gouvernement sont restés sans réponse. Ce dernier a déclaré auparavant que le gouvernement n'avait aucun différend avec les médias. Des spécialistes de la sécurité comme Dina Ondari du Media Council estiment que la situation est frustrante.
Les policiers qui s'en prennent aux journalistes sont malheureusement ceux qui ont la responsabilité, en vertu de la loi, d'arrêter les auteurs de violations de la liberté de la presse.
Le Kenya occupe la 102e place du classement mondial de la liberté de la presse et Reporters sans frontières souligne les risques auxquels sont exposés les journalistes qui couvrent la vie politique. Les lois kenyanes sur la liberté de la presse sont strictes, mais les experts estiment qu'une plus grande volonté politique est nécessaire pour garantir ses droits.
Le candidat républicain à la présidence Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate présumée, se sont attaqués l'un à l'autre pour tenter de séduire les électeurs indécis. La course va encore s'intensifier à peine 3 mois avant le scrutin du 5 novembre. Véronica Balderas Iglesias de la VOA fait le point. Récit Lionel Gaïma.
À quelques 100 jours des élections générales américaines, le candidat républicain à la présidence Donald Trump a intensifié ses attaques contre la présumée candidate démocrate et vice-présidente Kamala Harris lors d'un rassemblement à St. Cloud dans le Minnesota.
Nous avons une nouvelle victime maintenant, Kamala. Nous avons une toute nouvelle victime et honnêtement, c'est une folle de la gauche radicale.
Kamala Harris a vivement réagi à la déclaration de Trump lors de sa campagne à Pittsfield, dans le Massachusetts.
Vous avez peut-être remarqué que Donald Trump a eu recours à des mensonges insensés sur mon bilan et sur certaines de ses déclarations et celles de son colistier. C'est tout simplement bizarre.
La campagne de Kamala Harris affirme qu'elle a récolté 200 millions de dollars depuis l'annonce du président Joe Biden, soutenant sa candidature et que 66% proviennent des donateurs novices. Le gouverneur de New Hampshire, Chris Sununu, un républicain, s'attend à ce que l'enthousiasme autour de la candidature de Kamala Harris s'estompe dans les 30 jours. Il conseille au duo Trump J.D. Vance de s'en tenir aux politiques au lieu de recourir à des attaques personnelles. Chris Sununu, gouverneur du New Hampshire, est apparu dimanche dans l'émission This Week sur la chaîne ABC.
Tenez-vous-en à ce qui motive l'anxiété. Les gens sont anxieux en ce moment parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Ils sont anxieux parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité chez eux ou dans leur communauté. Ce sont les choses qui les pousseront à aller voter pour Trump en novembre.
Le gouverneur démocrate du Maryland, Wes Moore, a déclaré qu'il pensait que la vision de Harris pour l'avenir l'aiderait à convaincre les électeurs indécis dans les États clés. Wes Moore a également été interviewé dimanche sur ABC.
Je pense que ce que les gens disent maintenant, c'est que nous pouvons enfin avoir une conversation sur leur choix dans cette élection, que les gens voient que ce n'est pas seulement la démocratie qui est en jeu, c'est aussi le fait que les valeurs fondamentales, la façon dont nous pensons aux libertés économiques sont en jeu.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique, bien sûr.